Et si on se laissait transporter par une merveilleuse histoire? Bienvenue dans Il était un roman, le podcast littérature jeunesse. Je suis Séverine et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour découvrir avec toi les aventures du professeur Lidenbrock et de son neveu Axel à travers le roman Voyage au centre de la Terre, écrit par Jules Verne. Pour rester informé des derniers épisodes, je t'invite à t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti! Chapitre 34. Journal de bord, mercredi 19 août. Heureusement, le vent, qui souffle avec force, nous a permis de fuir rapidement la scène de combat. Hans, toujours au gouvernail, poursuit sa navigation. Avec le calme retrouvé, mon oncle retombe dans sa contemplation de la mer. Le voyage reprend son rythme monotone que je tiens à garder à tout prix afin d'éviter les dangers d'hier. Journal de bord, jeudi 20 août. Brise nord-est assez inégale. Température chaude, nous naviguons à une vitesse de 17 km/h. Vers midi, un bruit continu très lointain se fait entendre. Je ne peux donner d'explication. Le professeur dit
« Regarde, Axel, au loin. Il y a un rocher ou bien un îlot sur lequel la mer se brise. »
Hans se hisse au sommet du mât, mais ne signale aucun danger. 3 heures se passent. Les mugissements semblent provenir d'une chute d'eau éloignée. Je partage mon observation avec mon oncle, qui secoue la tête pour me faire comprendre qu'il n'est pas du même avis que moi. J'ai pourtant la certitude que je ne me trompe pas. Et si nous nous dirigions vers une chute d'eau? Bien sûr, le professeur y verrait l'opportunité d'accélérer notre descente. Cette perspective m'effraie d'autant plus que les mugissements se font maintenant entendre avec une grande violence. Je réfléchis. Dans l'hypothèse où nous filions vers un précipice, alors la force produite par une chute d'eau devrait accélérer le courant. Je décide de vérifier cette possibilité en jetant une bouteille à la mer. Rien ne se passe. Le courant est nul. Cette éventualité n'est donc pas fondée et je me sens soulagée. Vers 4 heures, Hans se lève et grimpe au sommet du mât. Son regard se pose sur un point fixe.
Axel, il a vu quelque chose.
Je le crois aussi, mon oncle. Hans redescend, puis nous indique quelque chose avec son bras. Et saisissant sa lunette, mon oncle regarde attentivement pendant 1 minute. Cela me paraît 1 siècle.
En effet!
Que voyez-vous, mon oncle?
Un jet d'eau immense qui s'élève au-dessus des flots.
S'agit-il encore d'un animal marin?
Peut-être.
Alors changeons de direction et mettons le cap plus à l'ouest. Pas question de nous retrouver face à ces monstres dangereux.
Non, continuons notre navigation.
Répond mon oncle. Je me retourne vers Hans, qui, comme toujours, fidèle à son serviteur, maintient le cap. Le simple fait d'apercevoir cette gigantesque colonne d'eau à une distance si éloignée indique que cet animal est doté d'une taille inouïe, que l'on peut même qualifier de surnaturelle. Comme l'a ordonné mon oncle, nous continuons donc en avant. Plus nous nous approchons, plus le jet grandit. Quel monstre peut se remplir d'une telle quantité d'eau et l'expulser ainsi, sans interruption? À 8 heures du soir, nous nous rapprochons encore de lui. Son corps noirâtre, énorme, monstrueux, s'étend dans la mer comme un îlot. Sa longueur semble dépasser 2 kilomètres. Même 100 baleines ne suffiraient pas à le nourrir en un jour. Quel est donc cet énorme mammifère marin? Il est immobile comme endormi. La mer ne semble pas pouvoir le soulever. Parfois, il projette cette colonne d'eau à plus de 150 mètres et un bruit assourdissant accompagne sa retombée. La terreur me saisit. Je ne veux pas aller plus loin. S'il le faut, je couperai la corde de la voile. Je me révolte contre le professeur qui ne me répond même pas. Tout à coup, Hans se lève et montrant du doigt le point menaçant, il dit
« Home ! Une île ! »
s'écrie mon oncle. Une île ?
Évidemment !
Mais cette colonne d'eau ?
C'est un geyser, tout comme on en trouve en Islande.
J'ai d'abord du mal à reconnaître que je me suis si grossièrement trompée. Avoir pris un îlot pour un monstre marin. Mais la preuve est sous mon nez et je dois bien me résoudre à admettre mon erreur. Nous sommes tout simplement face à un phénomène naturel.
Allons-y, accostons,
dit le professeur. Il nous faut éviter cette trombe d'eau dont la force pourrait couler notre radeau en un instant. Hans, manœuvrant adroitement, nous amène à l'autre bout de l'îlot. Je saute sur un roc et mon oncle me suit tranquillement. Nous marchons jusqu'à rejoindre un petit bassin central d'où le geyser crache ses colonnes d'eau. L'eau bouillonne et j'y plonge un thermomètre. Il affiche une chaleur de 163 degrés. L'eau sort donc de profondeur où règnent de fortes températures. Finalement, depuis le début de notre aventure, je n'avais peut-être pas tort de m'inquiéter de l'existence d'une chaleur extrême. Les théories du professeur Lindenbrock s'avéreraient-elles inexactes ? Je ne puis m'empêcher de lui en faire la remarque. Il réplique.
« Eh bien, qu'est-ce que cela prouve contre ma théorie ?»«
Rien, » répondis-je d'un ton sec, l'entêtement total de mon oncle finit par me lasser. Bien sûr, je reconnais notre chance d'accomplir ce voyage dans des conditions de température idéales, même si je ne comprends toujours pas comment ce phénomène peut demeurer. Pour autant, je reste persuadée que nous rejoindrons un jour ou l'autre ces régions où la chaleur centrale atteint les plus hautes limites que les thermomètres ne peuvent mesurer. Le professeur, lui, s'en tient à ces mots.
Nous verrons bien.
Puis, après avoir donné le nom de son neveu à cet îlot volcanique, il donne le signal de départ. Je reste pendant quelques minutes encore à contempler le geyser. Enfin, nous partons en contournant les roches du sud. Hans a profité de cette pause pour remettre le radeau en état. Mais avant de s'éloigner, je fais quelques observations pour calculer la distance parcourue et je les note sur mon journal. Nous avons franchi 1300 km de mer depuis Port Gretel et nous nous trouvons à 3000 km de l'Islande, directement sous l'Angleterre. Chapitre 35. Journal de bord, vendredi 21 août. Le lendemain, le magnifique geyser se situe hors de vue, tant le vent puissant nous a rapidement éloignés de l'îlot Axel. Les mugissements se sont éteints peu à peu. Je remarque que le temps va bientôt changer. L'atmosphère se charge de vapeurs électriques provenant de l'évaporation de l'eau de mer. Les nuages s'abaissent, prennent une couleur verdâtre et les rayons de lumière électrique peinent maintenant à les percer. Tout indique qu'une tempête redoutable va éclater. À l'idée de cette catastrophe annoncée, je me sens submergée et remplie d'angoisse. Les nuages gonflés comme de gros ballons revêtent une apparence impitoyable comme ils le deviennent au début des orages. L'air est lourd, la mer est calme. Je ne peux me retenir de dire. On dirait bien que nous allons avoir mauvais temps. Le professeur ne répond pas. Il est d'une humeur massacrante, lassé de voir cet océan se prolonger indéfiniment sans jamais découvrir le moindre morceau de terre en vue. À mes paroles, il hausse les épaules. En pointant de la main l'horizon, je dis « Nous aurons de l'orage. Regardez ces nuages, mon oncle. Ils s'abaissent sur la mer comme pour l'écraser. » Silence général. Le vent se tait. La nature a l'air d'une morte et ne respire plus. Sur le mât, où je vois déjà pointer des effets de lumières électriques, la voile toute détendue tombe lourdement. Le radeau est immobile au milieu d'une mer épaisse et d'un calme plat. Mais si nous n'avançons plus, à quoi bon garder cette toile qui peut nous mettre en danger au premier choc de la tempête ? Je dis. Détachons la voile et abattons notre mât, cela sera plus prudent.
Non, et 100 fois non, il n'en est pas question. Que le vent nous percute, que l'orage nous emporte, mais que j'aperçoive enfin les rochers d'arrivage, quitte à ce que notre radeau s'y brise en mille morceaux. »
À peine ces paroles prononcées que subitement l'horizon du sud se met à changer d'aspect. Un ouragan se dessine distinctement, déplaçant avec lui de gigantesques trombes d'eau. Il fait de plus en plus sombre. J'y vois à peine et je fais de mon mieux pour réussir à prendre quelques notes incomplètes. Le radeau se soulève, il bondit. Mon oncle est jeté à terre. Je me traîne jusqu'à lui. Il s'est accroché à un bout de câble. De manière incroyable, il paraît heureux d'assister à ce spectacle des éléments naturels qui se déchaînent. Hans, lui, ne bouge pas. Le mât résiste. La voile se tend comme une bulle prête à éclater. Le radeau file.
« La voile, la voile !»
dis-je en faisant signe de l'abaisser.
« Non !»
répond mon oncle.
« Nech !»
fait Hans en remuant la tête. Devant nous, près de l'horizon, la pluie forme un déluge criant alors que nous nous en approchons dans un élan insensé. Mais avant qu'elle n'arrive jusqu'à nous, le voile de nuages se déchire, la mer jaillit en ébullition et l'électricité produite par un effet chimique entre les éléments se met en scène. Le tonnerre éclate, la foudre étincelle, les éclairs innombrables surgissent et s'entrecroisent, les vagues se soulèvent, l'eau chargée d'une chaleur phénoménale produit même des flammes. Mes yeux sont éblouis par l'intensité de la lumière, mes oreilles brisées par le fracas de la foudre. De toutes mes forces, je me retiens au mât qui plie sous la violence de l'ouragan. Journal de bord, dimanche 23 août. Où sommes-nous ? La nuit a été épouvantable. L'orage ne se calme pas. Nous vivons au milieu du bruit et de détonations incessantes. Nos oreilles saignent. Nous ne pouvons nous parler. Les éclairs ne diminuent pas et frappent la voûte de granit. Et si elle allait s'écrouler sur nous ? D'autres éclairs prennent la forme de boules de feu qui éclatent comme des bombes. Le bruit général a dépassé la limite d'intensité que peut percevoir l'oreille humaine. L'air chargé en électricité produit en continu de la lumière à la surface des nuages. D'abondantes colonnes d'eau s'élancent dans l'atmosphère et retombent en mousse. Où allons-nous ? Mon oncle est couché de tout son corps à l'autre bout du radeau. La chaleur s'intensifie. Je regarde le thermomètre, il indique. Le chiffre est effacé. Journal de bord, lundi 24 août. Cela ne finira donc pas, et si l'état de cette atmosphère si dense restait ainsi éternellement ? Nous sommes brisés de fatigue. Hans reste le même. Le radeau court inévitablement vers le sud-est. Nous avons navigué sur plus de 900 km depuis l'îlot Axel. À midi, la violence de l'ouragan redouble. Nous devons accrocher solidement tous les objets transportés sur le radeau. Chacun de nous s'attache également. Les vagues se jettent au-dessus de nos têtes. Impossible d'échanger une seule parole depuis 3 jours. Mon oncle s'est approché de moi. Il a articulé quelques paroles. Je crois qu'il m'a dit
« Nous sommes perdus ».
Je n'en suis pas certain. Je décide de lui écrire ces mots. « Retirons notre voile ». Il me fait signe qu'il est d'accord. À peine eut-il le temps d'incliner sa tête de bas en haut qu'un disque de feu apparaît au bord du radeau. Le mât et la voile sont partis d'un bloc, s'envolant haut dans le ciel. La peur nous glace. La boule de feu de la taille d'une bombe se promène lentement en tournoyant avec une vitesse surprenante. Elle vient ici et là, monte sur un des bâtis du radeau, saute sur le sac à provisions, redescend légèrement, bondit, effleure la caisse à poudre. Quel sentiment d'horreur ! Nous allons exploser ! Non, le disque éblouissant s'éloigne. Il s'approche de Hans, qui le regarde fixement, de mon oncle, qui se précipite à genoux pour l'éviter, de moi, pâle et frissonnant sous l'éclat de la lumière et de la chaleur. Il rebondit près de mon pied, que j'essaye de retirer. Je n'y arrive pas. Une odeur de gaz pénètre nos poumons, nous étouffons. Pourquoi ne puis-je retirer mon pied ? La chute de cette boule électrique a aimanté toutes les parties en fer se trouvant à bord. Les instruments, les outils, les armes s'agitent en produisant des petits sons aigus. Les clous de ma chaussure se collent violemment à une plaque de fer incrustée dans le bois. Je ne peux retirer mon pied. Enfin, par un effort immense, je l'arrache au moment où la boule allait m'emporter. Soudain, au-dessus de nous, une lumière intense. La boule éclate, nous sommes couverts par des jets de flammes. Puis, tout s'éteint. J'ai juste eu le temps de voir mon oncle étendu sur le radeau et Hans, dont le corps est pénétré par l'électricité, crache du feu. Où allons-nous ? Journal de bord, mardi 25 août. Je me réveille d'un long moment d'évanouissement. L'orage continue et les éclairs se déchaînent. Sommes-nous toujours sur la mer ? Oui, et emportés avec une vitesse incalculable. Nous sommes passés sous l'Angleterre, sous la Manche, sous la France, peut-être même sous l'Europe entière. Un bruit se fait de nouveau entendre. Cette fois, il provient de la mer qui se brise sur des rochers. Mais alors... Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts d'Il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite.